Pour soutenir la Fondation Recherche Alzheimer à la Pitié-Salpêtrière, appelez le 01 42 17 75 23. Rendez-vous sur alzheimer-recherche.org.
Vous êtes bien avec Radio Classique.
Merci d'écouter Radio Classique. Il est 15h. Tout de suite, le flash d'Héloïse Weiss.
Vladimir Poutine assure vouloir une paix durable en Ukraine et affirme que les conditions de paix proposées par Moscou restent inchangées, c'est-à-dire l'annexion de 5 régions ukrainiennes notamment. Déclaration au moment où l'armée russe commet l'une des attaques les plus meurtrières à Kiev depuis 3 ans. 31 civils dont 5 enfants ont été tués dans des bombardements russes dans la capitale ukrainienne mercredi soir, selon un dernier bilan dévoilé par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. L'opération française de largage de vivres au-dessus de la bande de Gaza a commencé, annonce Emmanuel Macron. 40 tonnes de produits doivent être livrées au total. L'Espagne, de son côté, annonce avoir livré 12 tonnes d'aide humanitaire. La diffusion de la fièvre catarrhale ovine est exponentielle ces dernières semaines dans les élevages français. Selon les chiffres du ministère de l'Agriculture, plus de 2000 foyers ont été recensés en un mois. Le ministère de l'Agriculture et la Fédération nationale ovine appellent les éleveurs à vacciner d'urgence pour éviter le scénario catastrophe de l'année dernière. Les parents de Christina Radi se disent opposés à la réouverture du dossier qui vise Bertrand Cantat. Mariée au chanteur de Noir Désir, elle avait été retrouvée pendue chez elle en 2010. Il y a quelques jours, une enquête sur d'éventuels faits de violence volontaire a été réouverte par le parquet de Bordeaux. Le procureur motive sa décision par les nouveaux éléments apparus dans un récent documentaire sur Netflix consacré à Bertrand Cantat. Il avait été condamné en 2003 pour le meurtre de Marie Trintignant. La France bat un triste record, celui de la surpopulation carcérale, avec près de 85 000 détenus au 1er juillet. Or, seules 62 000 places sont disponibles selon le ministère de la Justice. La densité carcérale atteint même les 135% et les 200% dans une trentaine d'établissements. Enfin, 7e étape du Tour de France Femmes. Les coureuses sont parties depuis 1h30 avec un tracé entre Bourg-en-Bresse et Chambéry. Arrivée prévue à 17h45. Les bourses européennes toujours dans le rouge. Après la signature du décret instaurant les droits de douane américains à la Bourse de Paris, le CAC 40 est en baisse de moins 2,29% à 7593 points. Il est 15h, bientôt passé de 3 minutes sur Radio Classique et tout de suite vous retrouvez Élodie Fondacci.
Merci Héloïse. Prochain point sur l'actualité avec vous dans une heure.
Élodie Fondacci sur Radio Classique.
Thank you.
La musique du film Love Story de Arthur Hiller. Oh, que ce film m'a fait pleurer. C'était Francis Lai qui avait composé donc la musique originale de ce film. Et nous l'écoutions par le London Festival Orchestra et par Stanley Black à la baguette. Alors, des histoires d'amour, eh bien, c'est ce que nous découvrons tout au long de cette programmation. Des poèmes d'amour aussi. Le poème de l'amour et de la mer d'Ernest Chausson est l'œuvre que nous allons partager tout de suite. C'est une œuvre étrange, à moitié hybride, entre la cantate profane et le cycle de mélodie. En voici un interlude, joué par Armin Jordan et par le Philharmonique de Monte-Carlo. Interlude tiré du poème de l'amour et de la mer d'Ernest Chausson, nous écoutions Armin Jordan qui dirigeait l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo. Place à Eric Satie, un autre Français à présent, avec cette mélodie que j'aime beaucoup. Je te veux, c'est d'abord une chanson composée par Satie, le bastringue de Montmartre, Eric Satie, et nous allons en écouter une version pour piano par Jean-Yves Thibaudet.
Thank you. syntaxe. Mais ça, c'était aussi lié, ouais, j'avais pas mal de cours à l'époque, quand j'étais petit. Donc c'est vrai que mon rapport à la lecture, pour moi, il est pas du tout...
Du côté du plaisir au début, quoi.
Pas du tout du plaisir. C'est, pour moi, la lecture, c'était pas un plaisir du tout. Franchement, j'ai trouvé presque même une forme d'angoisse, quoi.
Et en même temps, vous parlez de votre mère et d'une amie de votre mère, mm-hmm, qui disait « ouais, ce serait bien qu'il lise ».
Ouais, parce que j'étais complètement nul. J'étais tellement nul en orthographe, en grammaire et tout.
Que c'était comme la solution à ça, quoi,
ouais,
pour elle.
Ouais, c'était la solution. Fallait que je lise, que je me sois forcé à lire pour pouvoir avoir des meilleures notes et tout. Et donc, c'était un peu ce truc-là. Après, je comprends ce désir de vouloir le faire, mais c'est vrai que moi, je l'ai vécu un peu comme quelque chose...
Comme un forçage, quoi.
Ouais, voilà. Forcer à lire quelque chose sans... Finalement, il trouvait une forme de plaisir. Ouais, ça a été très, très difficile. Et puis, j'ai pas lu jusqu'à très, très longtemps. J'ai pas lu... Après, bizarrement, le rap, la musique, ça a été aussi... Je reconnaissais les textes de rap par cœur, des chansons et tout ça. Donc ça, il y avait ce rapport au texte qui était né par le rap.
Mais ce qui est fondamental, parce que j'allais vous poser deux questions. Par quoi passait votre rapport d'enfant à l'imaginaire à ce moment-là ? Donc livres, c'était autre chose. Et l'autre truc, c'était le rapport aux mots. Bah, par exemple, le rap ou la chanson, c'est un endroit fondamental pour avoir un... Et là, il y avait du plaisir, par contre.
Bah, du plaisir à écouter. Du plaisir à se souvenir. Par exemple, apprendre un poème, c'était une torture.
Enfin, mais apprendre un texte de rap, c'était pas une torture. Ou en tout cas,
non.
C'était ça. Et c'était qui comme groupe, par exemple?
À l'époque, c'était... Alors, il y en avait plein. Il y avait des groupes de rap, mais il y avait aussi des chanteurs plus classiques, comme Francis Cabrel. Ça me fait chier de vous dire ça, parce que j'ai l'impression... Non, parce qu'en fait, ça fait tellement cliché, mais ça m'emmerde, mais je le dis quand même, c'est la réalité.
Ça va pas la tête.
Mais si, c'est fait cliché.
Qu'est-ce qui fait cliché?
Bah, c'est de dire, ça fait presque à la limite comme La Fouine qui dit, genre, ouais, j'écoutais du Jacques Brel, et d'un coup, il mettait à écouter du Public Enemy. Mais c'est pas grave, c'est la réalité du truc.
C'est la réalité en même temps. Franchement, il y a combien de rappeurs qui ont écouté du Francis Cabrel et du Aznavour et qui passent leur temps à le raconter?
Alors moi, le Aznavour, j'ai jamais écouté pour le coup.
Ouais,
Aznavour, moi, j'étais plus Claude Nougaro. Moi, j'étais un grand...
Immense poète, Nougaro.
Voilà. Donc un rapport aux mots avec Claude Nougaro très fort, évidemment, NTM, Aya, moi je suis de toute cette génération avec tous ces groupes-là. Donc c'est vrai que le premier morceau d'Authentique... d'NTM, ça a été un morceau que je connaissais par cœur. Maintenant, j'ai même un petit truc, mais je veux même pas. Il ne faut pas me demander de le faire. C'est horrible.
Les gens qui disent ça, ils ont envie qu'on leur demande.
Non, pas du tout, parce que je sais que ça, c'est la première idée qui pourrait venir en tête. Mais voilà, il y a ça. Il y avait effectivement Les Nuits Blanches de Nougaro, dont je trouve le texte est magnifique. Cécile Maffi. Enfin, il y a des textes incroyables que je trouve chez Nougaro qui me parlent encore. Ça, c'était vraiment le passage. Et puis, toujours. Très mauvais en français et tout ça. Et puis un jour, en fait, il s'est passé quelque chose par rapport à la lecture. Moi, j'étais à l'époque, j'étais de Courbevoie, on avait fait. Je passais un concours de dessinateur maquettiste et donc j'étais à l'école à Saint-Germain-des-Prés. On avait une annexe de l'école parce que c'était une école technique. Et on a eu un professeur.
Tout ce temps-là sans lire. Bah, c'est-à-dire que là, on vous retrouve quoi, à une vingtaine d'années?
Non, j'avais 17-18.
D'accord.
17-18, ouais, je crois. 17 ans, je crois. Et tout ça, sans lire. Hein. Je lis pas.
Là,
je vois des films. En fait, moi, pour vous dire à quel point j'avais un problème avec la lecture, c'est que j'achetais des BD de comics et je les achetais juste uniquement pour les dessins. Donc moi, le dessin, ça a été vraiment mon premier rapport au monde. Donc le dessin, pour moi, c'était vraiment quelque chose qui m'a permis de communiquer déjà avec les autres et puis en même temps d'avoir un rapport... avec l'image, avec le trait très fort, et donc c'est comme ça qu'en fait j'ai fait dessinateur maquettiste. C'est parce que je dessinais bien, et j'avais eu des professeurs à l'époque qui m'avaient accompagné, qui croyaient beaucoup en mon savoir-faire, et je dessinais beaucoup. En fait, je faisais même pratiquement pas mes devoirs, je faisais que dessiner. En fait, j'avais des techniques pour cacher les livres. Enfin, je pense qu'on l'a tous, je sais pas si on l'a tous fait, mais quand les parents passent dans la chambre et t'as les livres comme ça, et moi je mettais les livres et je dessinais, et dès qu'ils arrivaient, je mettais le livre d'histoire par-dessus mes dessins, et après, quand ils repartaient, je redessinais. J'espère que ma mère m'en voudra pas de ça, mais... Et puis j'avais un beau-père aussi qui me montrait énormément de films, donc beaucoup, beaucoup d'images, beaucoup de BD, beaucoup de dessins et beaucoup, beaucoup de films.
Et donc on vous retrouve 16-17 ans, ouais. Ok, Saint-Germain-des-Prés, annexe de votre école,
ouais.
Et il se passe quoi?
Il se passe que je rencontre en fait on a un prof d'histoire à l'époque qui s'appelle Monsieur Saint-Michel, il s'appelait.
Monsieur Saint-Michel,
ouais, ouais,
à Saint-Germain-des-Prés. Ouais.
Quelqu'un que j'ai, qui a été vraiment en fait, le déclencheur un peu de mon rapport à la lecture. Parce qu'il était à l'écoute, j'avais envie de me dire, genre, tiens, il nous avait dit, ben, la semaine prochaine, on a un devoir à faire sur un livre. Donc c'était Paris brûle-t-il. Et il dit, bon, bah voilà, il faudrait lire tout le livre et tout. Et je me rappelle très bien, la plupart des. Enfin, c'est un livre qui est quand même assez gros. Je crois qu'il faisait 500, 600 pages. Je sais plus combien il fait de pages. Je sais pas pourquoi, j'ai fait pratiquement une nuit blanche où j'ai fini le livre en une seule nuit, quoi. Et bizarrement, là, d'un coup.
Plus d'angoisse.
Bah, plus, toujours quand même un peu. C'est toujours là, mais moi, aujourd'hui, moins. Hein, je peux lire plus tranquillement. Par exemple, je lis des histoires à mon livre, si, à mon fils. Si je devais lire des histoires en étant angoissé, ça serait horrible. Donc, non, là, je l'ai perdu. Mais c'est vrai que c'est là, à l'époque, c'était encore là, mais moins, quoi. Et oui, je lis ce livre. Je sais pas, ça m'a. Je suis complètement plongé. J'ai complètement plongé dedans. Ça m'a. Ouais, ça m'a fasciné et j'ai passé, je crois, je sais plus, j'ai commencé genre à 10h, j'ai commencé à 10h, 4-5h du matin, j'étais encore dedans, en train de le finir, en plus parce que je savais qu'il y avait l'interro, mais j'avais vraiment envie de le finir en fait, parce que j'étais complètement dedans quoi. Donc ouais, là, à partir de là, ouais, j'ai eu le rapport à la lecture a complètement changé. Alors bizarrement, pour quelqu'un qui lit pas beaucoup, en fait, j'ai fait pas mal d'études derrière où j'ai commencé à lire pas mal de livres d'histoire sur l'histoire de l'art aussi, et puis aussi de la philosophie. La philosophie, ça a été vraiment le truc. Moi, les romans, j'ai eu beaucoup de mal. J'arrivais pas à accrocher aux histoires et tout ça. C'était pas le truc qui me. Parce qu'il y avait les films en fait. Bizarrement, il y avait les films. On parle de fiction. Ouais, les films, c'était genre. Pour moi, c'est le monde de la fiction. Et c'est vrai que les livres, pour moi, c'était le monde de la pensée des idées. Ce qui est pas vrai en soi, parce que dans un film. Il y a des idées, hein. Mais il y a de la pensée, mais oui, voilà. Et donc, c'est vrai que, bizarrement, je me suis un peu plus rapproché de la philosophie, même de la psychanalyse.
Par exemple, qui vous a intéressé?
Le premier livre, là, je voulais ramener, moi, c'était Surveiller et punir, qui a été un peu un bouleversement, quoi. Ça a été vraiment le livre qui m'a fait prendre conscience beaucoup de... de comprendre un peu comment la société fonctionne aussi. Et puis après, j'ai lu aussi... des classiques, finalement, La République de Platon, donc je me suis coltiné ce genre de bouquin. Je ne sais pas pourquoi, en fait. J'avais plus de facilité à lire de la philo qu'à lire du roman. Je ne comprenais pas les romans. Je n'arrivais pas à comprendre. Mais la philo, ça va. C'est, oui. Je trouvais que c'était abordable. Genre, je la comprenais bien, quoi.
Aujourd'hui, par exemple, il y a une partie de votre travail qui réfléchit beaucoup à l'enfermement, ouais. À l'incarcération. Et surveiller et punir, à l'époque, c'était déjà des questions qui vous travaillaient?
Bien sûr, ouais, c'était déjà des choses qui me travaillaient parce que pour des raisons plus personnelles, mais oui, j'essayais de comprendre effectivement où j'étais en fait, où étaient certains potes ou certains gens qui m'entouraient. L'idée de comprendre c'est quoi toute cette mécanique dans laquelle je pouvais être. Essayer de comprendre ça, de comprendre ce que c'était que le racisme aussi. Après, effectivement, c'était pas si clair à l'époque et on le connaît pas. Prenait pas si facilement. Il y avait comme ça des grands idéaux, mais dans le fond, profond des choses, pour décortiquer.
Mais c'était une question. Pas... Vous les formuliez comme ça, vous vous disiez, ok, moi je vis dans quel monde?
En fait,
quoi,
moi
la...
j'étais avec des. J'étais à l'époque, moi j'étais dans un groupe de graffeurs qui existe toujours. Avec eux, on avait, ouais. Évidemment, c'est un peu des trucs un peu bateaux, un peu généralistes, mais sur le système, de comment le système fonctionne, qu'on exclut du système. C'est des idées un peu comme ça.
Mais est-ce que concrètement, quoi, vous alliez graffer le soir et que vous vous faisiez ramasser par les flics et du coup vous vous disiez, ok, comment en gros, quels sont les camps, quelles sont les forces en présence?
Exactement, je pense qu'il y a un peu ça, Et puis effectivement, on était tous, pour certains enfants d'immigrés, d'autres deuxième génération, d'autres métis et tout. Effectivement, il y avait ce racisme qui était là et qu'effectivement qu'on ressentait, et qu'on n'arrivait pas. C'est le plus compliqué, je pense, dans ces situations, c'est d'arriver à mettre des mots. Et effectivement, le rap, la musique, ça aide aussi à mettre des mots sur des choses. Les textes de rap aussi, c'est pas mal, ça permet, mais ça reste quand même quelque chose de très généraliste. Mais aussi, voilà, on se construisait notre expérience, on pensait au monde, même si on allait graffer, on réfléchissait dans lequel système on était.
Je voudrais montrer que la manière dont on punit est actuellement lié très étroitement à une certaine forme de pouvoir et de contrôle politique qu'on trouve dans les sociétés capitalistes et aussi dans les sociétés socialistes. Et c'est ce qui fait que les gens ne supportent pas, ne comprennent pas, n'adhèrent pas profondément à ce système de punition. Il me semble qu'il existe tout aussi fondamental que les relations économiques ou les relations discursives, des relations de pouvoir, qui trament absolument notre existence. Quand on fait l'amour, eh bien, on met en jeu des relations de pouvoir. Ne pas tenir compte de ces relations de pouvoir, les ignorer, les laisser jouer à l'état sauvage, ou les laisser, au contraire, confisquer par un pouvoir étatique ou un pouvoir de classe, c'est ça, je crois, qu'il faut essayer d'éviter. En tout cas, c'est contre cela qu'il faut polémiquer. Faire apparaître les relations de pouvoir, c'est essayer, dans mon esprit en tout cas, de les remettre en quelque sorte entre les mains de ceux qui les exercent.
D'ailleurs, une partie du mouvement hip-hop, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en France, ça a été une porte d'entrée de penser ces conditions-là, de penser ces parcours de vie, de penser ces rapports de force-là. Donc, c'est assez lié finalement avec l'accessibilité à cette.
Non, mais voilà, c'était effectivement comme tu dis là très bien, c'est réfléchir à sa propre condition, quoi. Je pense que c'était ça dont on avait envie de. Déjà de parler entre nous, mais on ne parlait pas que de ça, bien sûr, mais c'était
comment
des choses.
Comment faire de surveiller et punir à 2h du mat sur le RER.
Ça, je le lisais dans mon coin. Mais...
En le disant.
Ouais, je le disais, je le disais. Ouais, bien sûr, je le disais, mais je ne sais pas, tu t'étales pas là-dessus. Tu vis des expériences humaines avant tout avec tes amis, et puis on parlait d'autres trucs, on faisait la fête, on parlait de quel graffeur avait tout déchiré. On parlait même de. Alors. Par exemple, il y a un truc, le rapport à la lettre, par rapport au signe. Parce que qu'est-ce que c'est que le graffiti ? Le graffiti, c'est qu'écrire son nom sur des murs. Mmh. On crée des signes, on écrit des lettres. Et ces lettres-là, elles ont un certain style, elles ont une calligraphie. Et cette calligraphie,
une puissance de représentation.
Et aussi,
c'est-à-dire qu'inscrire son nom sur un mur ou sur un train, non seulement il y a une puissance de calligraphie, mais on dit que ça représente... au sens fort du terme, qui est que ça projette un nom dans la ville. Souvent, en plus, par des corps qui, par ailleurs, sont silenciés, invisibilisés, etc. etc. Donc, c'est de la calligraphie qui a une puissance d'affichage très forte.
Oui, mais c'est l'information, c'est une affirmation de soi, c'est aussi se représenter, c'est aussi faire partie d'un collectif, c'est aussi faire groupe aussi, c'est aussi un rapport d'amitié avec les autres, d'avoir un nom, d'avoir une sorte de nom commun, quelque chose qui nous rassemble. Et et je crois que voilà, le rapport aussi à l'écriture est aussi lié au tag, à le geste.
En pensant à ça, moi je revois aussi, et c'est encore le cas aujourd'hui, quand on parle de lecture, là, Mohamed Bourouissa, mais se promener dans la ville et lire le nom de crew, lire le nom de graffeuse ou de graffeur particulier, c'est bien la lecture d'un espace, c'est bien la lecture d'un espace visuel que de voir arriver des noms. C'est aussi une très grande joie, par exemple, de prendre un train, d'aller dans tel endroit et de voir surgir un nom. Un nom qu'on aime, c'est quelque chose de très fort.
Aussi, ouais.
Et qui a à voir, il me semble, vraiment très profondément avec l'écriture et la lecture.
Young man's world. France Culture. Le Book Club.
Bikini, ropa interior. Cuando la vi, yo le dije cómo fue. Abajo el yate fue que la pide. Está loca y de todo prueba. Ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Esa blanquita con el sol y de una ya se pone morena. Un trago de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema. Dicen que no, pero sé que mi flow le corre por la pena. Que tú tienes el traje de baño chiquitito te queda. Esa blanquita con el sol y de una ya se pone morena. Un trago de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema. Dicen que no, pero sé que mi flow le corre por la pena.
Nouveauté fréquence 3.
Take five, we've been at it all night. Now sorry in the world, I ain't already said. Oh Christ, getting hard to be nice. Not a single little cross on your head. Don't want me dead. Okay, I get it, you wanna be mad.
16h, 17h, c'est 100% Loir-et-Cher.
100% Loir-et-Cher.
Sur Fréquence 3.
Just
killer I swim to. Watch your whirlpool spin and jump into. You know you make me wanna run away. Kingdom come, you make me wanna stay. Magnify you, sanctify you, glorify you, make me wanna die too.
Elle te tendra les bras, ma Palestine fera de nos cœurs éternelle croix. Au Fedayin, je n'ai froid qu'en t'oubliant. Ma terre est claire et fine, ses légendes ont plus de 1000 ans. Les astres filant sur le bleu de ces nuits dessinent toutes ces âmes que l'on assassine. Au fond d'une cave, un livre poussiéreux m'a dit que nous vivions heureux il y a de cela tant de nuits. Avant la haine, avant les terreurs et les rois, les peines d'antan, les malheurs et les croix tentant. Avant que les bancs qui s'effondrent en lac pleurant le ciel, tu étais Isaac et moi Ismaël. D'espoir, de vengeance aussi, de paix, d'amour, de haine et de poésie. Mes murmures volent au-dessus de ce mur de mort qui nous divise et le transperceront. Ce mur d'amère de ceux qui clament nos pères seront. Que toutes les forteresses s'effritent depuis la nuit des temps. Que les forts finissent faibles, inévitablement. Que la vengeance a nos deux épaules pour faire l'aimant. Que la mort nous attend, frère, puisque chaque souffle a son temps. Terre les lois du monde inexorablement. Chacun porte ses murmures, les tiens sont faits de quelle couleur, puisque chaque mur est une douleur.
Thank you. Anouk, tu m'entends?
5 sur 5.
Anouk, tu m'entends?
Je m'appelle Anouk, j'ai 9 ans. Ma radio préférée, c'est Studio Zeph.
Je m'appelle Basile, j'ai 4 ans et ma radio préférée, c'est Studio Zeph.
Thank you. Fondamental, oui, les chiens.